conséquence du mouvement abolitionniste anglais qui avait déjà abouti auparavant. Quoi. Donc, sur le, ce qu'on va s'attacher à regarder, c'est beaucoup plus la manière dont les Anglais se sont organisés, la manière dont les Français se sont mal ou se sont même pas du tout organisés pour réussir, et le rôle de quelques individus là-dedans. Je vais vous lire quelques extraits de textes à ce sujet-là. Donc d'abord sur la comparaison entre le mouvement anglais et le mouvement français. Dans ce bouquin-là, il y a la thèse qui est assez convaincante qu'on ne peut même pas parler de mouvement abolitionniste en France, en fait que ça n'a même jamais existé en tant que tel. Au mieux, on peut parler d'un courant anti-esclavagiste. Alors voilà un petit peu pourquoi. Parce que, dit le terme de mouvement abolitionniste, le terme de mouvement suppose une cohérence des engagements dans une assez longue durée. Une cohérence dans le temps, une cohérence dans les motivations, dans les actions. L'action anti-esclavagiste en France n'eut pas cette cohérence. Les engagements furent essentiellement individuels et non collectifs. Contrairement à la société anti-esclavagiste britannique, dont les travaux furent continuellement le fait d'un collectif, la société française fut un groupement d'individus, la plupart du temps célèbres pour leurs fonctions professionnelles ou politiques, mais qui ne surent pas donner unité et cohérence à leur engagement. Ils n'entreprirent aucune action ni aucune campagne d'envergure au niveau national. Pas de distribution massive de tracts explicatifs de la situation des esclaves ou des pratiques de la traite négrière. Les pétitions qu'ils lancèrent furent rares et recueillirent peu de signatures. La France ne compta que peu d'esclavagistes à plein temps. Seuls Victor Schlecher et Cyril Bisset consacrèrent leur vie à la cause. Les comités abolitionnistes britanniques recoururent incontestablement aux moyens d'action les plus divers et les plus efficaces pour sensibiliser et mobiliser l'opinion publique, comme les instances gouvernementales, à l'égard de l'esclavage. Des conférences furent organisées dans chaque comté, dans les petites localités où l'on placardait les affiches de propagande anti-esclavagiste avec une incessante obstination. Où l'on appelait avec succès au boycott des marchandises en provenance des colonies à esclaves. Où l'on distribuait tracts et brochures décrivant les conditions de déportation des captifs africains et de travail des esclaves des plantations américaines. Les pétitions qui circulaient en faveur de l'émancipation des esclaves des colonies recueillaient des centaines de milliers de signatures. Les comités féminins étaient particulièrement impliqués dans cette lutte, qui prit une ampleur exceptionnelle à la fin du XVIIIe. En France, le courant abolitionniste de recrutement, plus élitiste, comptait essentiellement sur des actions d'ordre parlementaire et sur une revue, l'abolitionniste français, qui était en fait tenue en dehors des milieux concernés des colonies et de la marine. Les pétitions recueillaient un nombre de signatures, quelques milliers pour les mieux diffusées, qui n'avaient rien de commun avec la mobilisation qu'elles provoquaient en Grande-Bretagne. Lorsque la Société française pour l'abolition de l'esclavage se lança dans ce type de campagne, elle s'adressa aux conseils généraux, à quelques personnalités politiques, à quelques organes de presse qui acceptèrent de lui concéder quelques lignes, mais aucune campagne plus massive ne fut organisée. Les argumentations développées en France étaient par ailleurs peu incisives, toujours soucieuses de ne pas porter atteinte aux intérêts en jeu, intérêts des planteurs, intérêts de la marine marchande notamment. Pour convaincre, les abolitionnistes français pensèrent devoir adopter un profil bas, demander le moins possible, heurter le moins possible leurs interlocuteurs pour obtenir satisfaction, au moins pour une partie de ce qu'ils revendiquaient. Beaucoup d'entre eux redoutaient les accusations d'anglophilie, voire de trahison nationale, et de mise en péril des colonies que les lobbies coloniaux faisaient peser sur eux. En fait, ils défendaient indirectement les intérêts des planteurs et des armateurs, laissant s'éterniser la question d'une session parlementaire à l'autre. Les gouvernements successifs étaient satisfaits de cet immobilisme, diminuant la pression par quelques mesures, telles que celle de 1845, où on limitait le nombre de coups de fouet, etc. Au niveau local, toute velléité abolitionniste était par contre sévèrement contrôlée et sanctionnée. Les administrations coloniales analysaient chaque numéro du journal officiel pour le censurer sur les débats abolitionnistes. Autre complément sur les différences entre le mouvement en Angleterre et le courant en France. La faiblesse du courant abolitionniste français résida également dans son caractère fortement individualiste. Il n'est qu'à comparer la force et le dynamisme des sociétés et comités abolitionnistes britanniques à l'immobilisme de la société française pour l'abolition de l'esclavage, pour mesurer les effets de l'absence de cohérence, de réflexion commune, au profit de campagnes et de publications solitaires telles que celles de Bissette ou de Schlöcher. Ce dernier, Schlöcher, bénéficia en février-mars 1848 d'un contexte révolutionnaire et de l'initiative du gouvernement provisoire français de faire appel à lui pour concrétiser sa décision d'abolition de l'esclavage. Il avait bien du mal, avant l'avènement de ces conditions exceptionnelles, à faire entendre sa voix, à faire lire ses ouvrages hors des cercles des abolitionnistes eux-mêmes et des planteurs à la rue. Les abolitionnistes ne menèrent en France pas de campagne publique massive d'information. Maintenant, quelques visions du côté anglais. Donc, c'est à partir d'un livre qui s'appelle « Bury the Chains », « Enterrons les chaînes », qui est l'histoire de la campagne d'abolition en Angleterre, qui est un livre autant le fait de voir que les révoltes d'esclaves ont été un facteur décisif pour faire progresser l'abolition est assez déprimant quand on se dit que les animaux ne peuvent pas se révolter de la même manière, autant quand on voit ce qu'ont accompli les abolitionnistes en Angleterre et la manière dont ils l'ont accompli, ça vous gonfle la bloc, et c'était une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire ce topo. Donc je vous lis quelques extraits de ce livre, mais que je souhaiterais poursuivre après la conférence d'autre manière sous forme d'écrit. Je vais reprendre des documents que je ferai circuler, ce qu'on ne pourra pas faire ici. D'abord, le livre rappelle un peu l'état d'esprit, donc ce qu'on a un petit peu entrevu tout à l'heure, l'état d'esprit de l'époque vis-à-vis de l'esclavage et de la possibilité de l'abolir. On rappelle que à l'époque, c'était la liberté, pas l'esclavage, qui était l'exception. Pas simplement en parlant des esclaves des Caraïbes et des Amériques, mais par rapport à l'état global du monde dans lequel la plupart des gens vivaient en servitude. Donc ce monde d'asservissement semblait d'autant plus normal que si on regardait dans le passé aussi loin qu'on pouvait, on trouvait toujours des systèmes d'esclavage. Les anciens Grecs avaient des esclaves, les Romains avaient de 2 à 3 millions en Italie, les Incas, les Aztèques en avaient, etc. Les textes sacrés en parlaient. Et pourtant, quand on regarde aujourd'hui sur cette campagne anglaise, ce qui est encore plus surprenant, c'est finalement pas tant que l'esclavage était aussi répandu, ce qu'on ne savait pas, c'est à quelle vitesse il a pu disparaître. Il était aussi répandu à la fin des années 1700, fin du 18e, et à quelle vitesse il a disparu, puisque à la fin du siècle suivant, l'esclavage était, au moins sur papier, interdit quasiment partout. Le mouvement anti-esclavagiste avait achevé son but en un peu moins d'un siècle. Les abolitionnistes britanniques étaient choqués quand ils ont commencé à apprendre, quand ils ont appris chacun individuellement ce que c'était que l'esclavage et la traite. Cette année, en 1787, qui est la date de la première réunion d'une dizaine d'activistes anglais dans une imprimerie de Londres, pour la première fois ils se sont rencontrés pour créer la société pour l'abolition de l'esclavage. Si cette année-là, vous étiez tenu dans une rue de Londres, dans un coin de rue, vous aviez affirmé que l'esclavage était moralement mal et qu'il devait être arrêté, 9 personnes sur 10 vous auraient ri au nez d'entendre ça. La 10e aurait été d'accord avec vous sur le principe, mais vous aurait assuré que le fait d'abolir l'esclavage était totalement chimérique et que d'ailleurs l'économie de l'Empire britannique s'écroulerait. Le parlementaire Edmond Burgueux était opposé à l'esclavage, mais même le simple fait d'abolir la traite était pour lui chimérique. Pourtant, en quelques années de campagne, la question de l'esclavage était devenue une question centrale dans la vie politique britannique. Il y avait, au bout de quelques années, un comité d'abolition dans chaque cité ou ville majeure et qui était en relation avec le comité central à Londres. Plus de 300 000 Britanniques refusaient de manger du sucre qui avait été fait par des esclaves. le Parlement était inondé de plus de signatures sur l'abolition, de pétitions pour l'abolition, que l'on n'avait jamais reçues sur aucun sujet. Et en 1792, la Chambre des communs, enfin les députés, disons, et pas le Sénat, passait la première loi interdisant, interdisant la traite. La loi a été bloquée au Sénat, enfin la Chambre des Lords, jusque pendant une dizaine d'années à peu près. Il y a toujours quelque chose de mystérieux au sujet de l'empathie humaine, et quand nous le sentons, nous, ou quand nous ne le sentons pas, il y a quelque chose de... Vous comprenez que je traduis l'anglais en me disant, c'est un petit peu saccadé. Il y a... et le fait que cette empathie vis-à-vis des esclaves est subitement apparue à ce moment précis a surpris absolument tout le monde. Les esclaves et les autres personnes asservies se sont toujours rebellés pendant l'histoire. Mais la campagne en Angleterre était quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant. C'était la première fois qu'un grand nombre de gens est devenu révolté et est resté révolté pendant plusieurs années sur le fait de protéger les droits de quelqu'un d'autre. Et c'était d'autant plus étonnant que c'était les droits de quelqu'un, de gens d'une autre couleur de peau sur un autre continent. Personne n'était plus... étonné de cela que Stéphane Fuller, qui était l'agent représentant les planteurs de Jamaïque à Londres, et qui était une figure centrale du lobby pro-esclavage. Alors que des dizaines de milliers de protestants signaient des pétitions à envoyer au Parlement, Fuller était totalement éberlué que ces personnes-là ne faisaient aucune demande au sujet de quelque chose qui était pour eux qui les affectait. Les abolitionnistes anglais ont réussi parce qu'ils ont réussi un défi qui confronte toute personne qui aujourd'hui est concernée par la justice sociale. C'est de faire des connexions entre ce qui est proche et ce qui est distant. Nous vivons un monde dans lequel les objets de tous les jours empaquettent le travail qui vient d'ailleurs, de quelqu'un d'autre. Souvent, nous ne savons pas comment les choses que nous utilisons, d'où elles viennent, dans quelles conditions elles ont été fabriquées. Mais alors, si on était dans les colonies, on pouvait voir les esclaves, la traite, mais en Angleterre, il n'y avait pas de caravane d'esclaves captifs, il n'y avait pas de champs de sucre de canne. Le premier travail des abolitionnistes a été de faire comprendre aux Britanniques ce qu'il y avait derrière le sucre qu'ils mangeaient, le tabac qu'ils fumaient et le café qu'ils buvaient. Alors, d'autres éléments, mais que je ne vais pas dire là, mais que je suis en train de faire passer à tous ceux qui me laisseront leurs coordonnées par écrit d'ici quelques temps, c'est des descriptions... très très concrètes des actions de ces abolitionnistes, les tracts qu'ils ont rédigés, les pétitions, la manière de s'organiser, les enquêtes qu'ils ont faites dans les ports, les personnes qu'ils interrogeaient en retour des navires à la descente des ports pour produire des témoignages, les analyses des taux de mortalité des esclaves et des marins dans les chambres de commerce maritime, où ils avaient feuilleté les registres, tout un tas d'actions innombrables qu'on retrouve aujourd'hui qui ont abouti un petit peu au miracle, c'est-à-dire en fait que, pas tant l'abolition elle-même, mais que une question qui était considérée qui n'intéressait personne en fait, c'est surtout ça, est devenue en très peu de temps une question qui était au centre du débat de la vie publique, quoi. Et dans les notamment un des moyens de s'en rendre compte, c'était d'analyser les... il y avait des sortes de cafés philo, je parle, enfin des cafés, comme ça s'appelait à l'époque, où il y avait des discussions sur les thèmes de l'époque, et c'était des cafés privés, c'est-à-dire que les personnes qui organisaient ces débats faisaient payer les entrées, et donc ils avaient intérêt à choisir des thèmes de débat qui intéressaient les gens, sinon ça ne marchait pas, donc c'était dans les sondages, un peu, hein. Et que, en quelques années de campagne, subitement, mais ça s'est produit en quelques mois, alors qu'il n'y avait aucun de ces cafés qui y avait dans ces réunions le thème de l'esclavage sur toutes ces années-là, ça ne s'était jamais produit. Subitement, il y en a eu un. Le mois prochain, il y en a eu deux ou trois. Et en 4 ou 5 mois, c'est devenu le thème principal de toutes ces discussions, c'était l'abolition de l'esclavage. Une autre illustration de ça, du phénomène du changement très très rapide, non pas de l'abolition, encore une fois, mais du fait que c'est devenu un sujet.
Mais est-ce que ça, c'est directement imputable au travail de l'abolition ?
Alors, enfin, le livre est très convaincant pour expliquer que oui, quoi. C'est-à-dire que, en complément des autres événements que j'ai décrits et d'autres facteurs économiques que je n'ai pas mentionnés, mais que oui, c'est de manière très directe, puisque là, on retrace même là, dans ce livre les, la démarche de telle personne, Thomas Clarkson, qui va tel jour présenter tel document, enfin, les actions très très concrètes, les réunions qui sont produites, telle conférence qui a été faite. Voilà, après, qu'est-ce qui explique l'engouement, le fait qu'il y ait une mobilisation citoyenne, de gens, quoi, partout dans l'Angleterre qui se mettent à créer des sociétés pour l'abolition de l'esclavage et distribuer des tracts, etc. Ça, c'est une autre question, je pense que personne ne peut vraiment avoir une réponse claire. Mais...
C'est quoi l'engouement quand on leur disait, quand on leur proposait l'utilité économique de l'esclavage ?
Pardon ?
Quand on leur proposait cette abolition de l'utilité économique de l'esclavage, c'était quoi leur argument principal en fait pour dire.
Ils en avaient un qui était le fait qu'un quelqu'un qui est payé pour son travail est plus motivé à bien travailler, surtout s'il est payé à la tâche, que quelqu'un qui, de toute façon, serait dans la même condition. Donc, l'intérêt à travailler le moins possible, c'est de travailler dur. C'était un des arguments. Les salariés travailleront mieux que les esclaves. Mais globalement, il semble qu'il y a eu très très peu, c'est un thème constant là dans cette analyse, là, c'est très peu d'analyse économique et de discours économique des abolitionnistes qui serait. Une erreur de leur part, ça aurait dû être un élément de plus à ajouter. Il y a notamment un facteur qui a joué, qui est aussi la découverte du sucre de betterave. En 1840, la production de sucre de betterave, qui était quasi inexistante auparavant, a dépassé la production de sucre de canne. Donc les planteurs des colonies désignaient comme ennemis non seulement les abolitionnistes à cette époque, mais après aussi les. Planteur de betteraves. Et donc l'analyse. Et donc du coup, il n'y avait à la fois pas d'analyse et donc très peu de discours économique. Et en l'occurrence, il semble qu'ils étaient plutôt d'accord avec les planteurs que si on abolissait l'esclavage, ça allait être problématique pour l'économie. Ce qui donc les freinait dans leurs arguments.
J'ai
ouais.
J'ai le souvenir d'une information qui est passée dans un mail. Bon, je commence à y faire je crois, mais peut-être la mentionner. Peut-être ça a été dit, cette information sur laquelle, quand il y a eu les premières campagnes de boycott du sucre,
oui.
Les producteurs de sucre, les marchands de sucre avaient commencé à diffuser l'information à grand renfort de conseils de médecins, que si vous n'avez pas de sucre, on peut jusqu'à une grave carence.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est quand même vachement intéressant, je pense.
Le petit extrait, c'était le dernier, je pense que je vais lire avant la discussion ouverte, hein, c'est dans ce livre, il y a la description donc, de cette première réunion, c'est-à-dire que vous avez en fait les Quakers qui ont toujours protesté publiquement contre l'esclavage, mais qui étaient vus comme des gens bizarres en dehors de la société. C'est-à-dire que, je crois, si je ne me trompe pas, qu'ils serraient la main, Harrison, faisaient un terme de panique, ils ont dit qu'ils n'étaient pas leur chapeau, quelles que soient les conditions, puisqu'ils n'ôtaient que devant Dieu. Enfin, devant le roi, ils n'ôteraient pas, mais y compris devant enfin, qui que ce soit. Ils avaient un certain nombre de pratiques liées à leur religion, une très forte éthique quotidienne. Ça nous fait un peu penser sur un aspect des djinns, un peu. Enfin, ils pourraient être perçus à la fois soit comme des fous, soit au contraire comme des personnes très éthiques et qui mettent en œuvre l'éthique au quotidien. Mais du coup, ils ne faisaient aussi aucune concession sur des pratiques sociales courantes, enfin, c'est à la main, je pense, un exemple, ou de dire, ils ne disaient pas « you », mais ils disaient « tout » encore à l'ancienne, ou ils nous employaient « tout » que pour Dieu, mais pas pour... Enfin, bon. Donc, toutes choses qui faisaient qu'ils se distinguaient immédiatement dans une assemblée, dès qu'ils ouvraient la bouche, même pas complètement, possiblement, d'un anglais moyen. Et du coup, leur discours n'était pas crédible sur l'esclavage aussi, par le fait qu'ils étaient considérés comme étant en dehors de la société. Et donc, personne en particulier, qui est Thomas Clarkson, qui a joué un rôle très très décisif dans le mouvement anglais, qui lui se croyait le seul à être contre l'esclavage, qui avait réfléchi à l'université dans une occasion un peu particulière, que vous allez faire un mémoire là-dessus, qui était révolté, qui se croyait seul et qui a découvert complètement étonné qu'il y avait des gens aussi en Angleterre qui n'étaient pas d'accord avec ça. Par des circonstances un peu fortuites, en fait, c'est parce qu'il a voulu faire publier son livre et trouver aucun éditeur qui s'intéressait. Oui, parce qu'il a son mémoire, il a publié en livre derrière, un mémoire qui critiquait l'esclavage. Et puis, subitement, il finit par trouver une imprimerie, et puis c'était l'imprimerie des Quakers. Parce qu'il a frappé à toutes les portes, il tombe sur celle-ci, et là, le responsable de l'imprimerie lui dit: mais nous, on est contre l'esclavage, vous voulez savoir, mais aussi, on veut s'organiser contre, on se réunit. Et c'était le départ de cette réunion. De cette réunion où là, une douzaine de personnes ont créé cette association et cette campagne.
Les Quakers étaient végétariens.
Donc, comment ?
Les Quakers étaient végétariens.
Je ne sais pas.
Oui, hein. Ils étaient végétariens au 17e siècle. Maintenant, aujourd'hui, ils ne sont pas. Pas tous, il y en a quelqu'un, mais au début, ils étaient végétariens.
Dans ce comité, ils ont cherché à avoir des personnes de différentes tendances, justement, des Quakers, je ne sais pas ce blanc, Clarkson, je crois qu'il y a des catholiques. Et donc, dernière petite citation, c'est décrit.
Oui, c'est justement, ils ont développé ce petit déjeuner avec des céréales pour remplacer le traditionnel ex ante deco. Donc, justement, pour faire un petit déjeuner végétarien.
On parle de nous qui se séparent et terminent leur réunion dans cette imprimerie de Londres. Et l'auteur dit: on peut seulement imaginer comment les membres de ce comité pouvaient se sentir alors qu'ils se dispersaient pour rentrer chez eux cette nuit-là. La tâche, parce qu'il venait donc de décrire un texte très simple où il disait: nous nous réunissons pour abolir l'esclavage, quoi, c'est notre projet. La tâche qu'il venait d'entreprendre était si monumentale qu'elle semblait à n'importe qui d'autre absolument impossible. Il allait falloir qu'il démarre une croisade dans un pays où la grande majorité des gens, depuis les fermiers jusqu'aux bishops, jusqu'aux évêques, acceptaient l'esclavage comme complètement normal. C'était aussi un pays où les profits qui venaient des plantations donnaient un gros boost à l'économie, où les taxes à l'exportation sur le sucre de canne était une source importante de revenus du gouvernement et où la vie de dizaines de milliers de marins, de marchands, de constructeurs de bateaux et autres dépendait du trafic d'esclaves. Le trafic lui-même avait augmenté à des niveaux jamais atteints auparavant à cette époque, apportant la prospérité dans des ports clés, y compris Londres. Comment alors, même simplement commencer ce travail massif, essayer de changer l'opinion publique. De plus, 10 sur 20 Anglais, 19 n'avaient même pas le droit de vote. Alors qu'ils n'avaient même pas eux-mêmes ce droit de base, comment pouvaient-ils eux-mêmes s'intéresser, se lever, se révolter pour être concernés par les droits d'autres gens d'une autre couleur de peau au-delà de l'océan? Dans toute l'expérience humaine, il n'y avait aucun précédent pour une campagne pareille.
Suivant.
Commencer par un thème. C'est que moi, ce que j'ai compris en lisant tout ça, c'est qu'il y avait une différence que j'avais pas faite avant entre l'avènement d'une société telle que je pense qu'elle devrait être vis-à-vis des animaux, en l'occurrence une société non spéciste, une société que j'appelle sensibiliste, où ce qui compte c'est ce que ressentent les individus, humains ou non, et puis le fait de faire abolir quelque chose. Et quand on regarde, je vous ai dit que les abolitionnistes étaient racistes, au sens où on l'entend aujourd'hui, et là, ils ont fait abolir l'esclavage et ils ont consacré leur vie à ça. Ils l'ont réussi. C'est-à-dire qu'en faisant abolir l'esclavage, on a vu d'une part qu'ils n'avaient pas fait abolir la misère dans le monde, mais ils ont quand même fait abolir quelque chose. Et ils n'ont pas fait non plus, encore moins, enfin, ils n'ont pas Ils ont permis une société non raciste, pour autant. On n'est toujours pas dans une société non raciste. Donc ça veut dire qu'on peut faire abolir quelque chose qui peut paraître de massif et qui est lié à une idéologie qui est très prégnante à cette époque, sans faire avoir anéanti l'idéologie elle-même. On peut avoir aboli une pratique, alors que l'idéologie qui l'a permise est toujours là, certainement affaiblie, mais elle est toujours là. Et du coup, moi, ça m'amène à considérer de manière très différente l'idée que de dissocier, alors pour ce qui me concerne, l'abolition de la viande et des pratiques que j'associe à la viande, la chasse par exemple. Je vais parler essentiellement de la viande, de toute façon. Je ne réduis pas mon discours juste à la viande, c'est l'exploitation animale, mais je vais parler de la viande. De faire une confusion entre l'abolition de la viande et l'abolition du spécisme ou l'abolition de l'exploitation animale. C'est-à-dire que on voit que dans une durée d'une centaine d'années, là, il y a eu une abolition d'une pratique qui était considérée comme là pour toujours, depuis toujours, mais ils n'ont pas aboli le racisme pour autant. Voilà, donc c'est à la fois encourageant et décevant, mais ça.
Est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont pas aboli le racisme? Enfin, je veux dire que aujourd'hui le racisme est aboli au moins au niveau officiel. Et ça, ça compte. Enfin, je veux dire que ça compte que, qu'aujourd'hui, aucun pays ne déclarera à l'ONU qu'il est normal que, qu'on maintienne l'apartheid, il est normal que. Et que, d'une certaine façon, dans les esprits, le racisme est devenu quelque chose un peu honteux. Que ça n'a pas voix au chapitre dans l'organisation de la société uniquement par la bande. On peut considérer que l'égalité humaine est loin d'être restaurée pour tout un tas de raisons, mais au moins, officiellement, l'égalité humaine. On peut dire d'une certaine façon que ça existait déjà avant l'abolition de l'esclavage, parce que c'était dans certains textes. Mais il me semble que c'est quand même quelque chose de. Enfin, que c'est très lié à l'abolition de l'esclavage et lié aussi au fait que le racisme ait été aboli dans les textes, ait été aboli dans les déclarations fondamentales des différents pays.
Moi, je mettrai un bémol parce que il y a eu une intensification de la colonisation et de l'exploitation des ressources coloniales après justement 1850, et avec vraiment un racisme qui est devenu l'idéologie dominante mais quasiment totalitaire. Il n'y avait pratiquement pas de gens qui s'élevaient contre l'idéologie raciste. Je ne sais pas s'il y en avait eu avant, mais il y en avait eu au tout début. L'idéologie-là a commencé à se créer, mais où, je sais pas, tous les grands hommes, là, dont on voit les noms dans les rues, tout ça, c'était des gens qui étaient extrêmement racistes. J'ai vu un manuel scolaire de Colbert, par exemple, les Noirs étaient à mi-chemin entre chimpanzés et l'homme blanc, quoi. Et c'est vraiment l'idéologie de fond. Il me semble que la condamnation du racisme, elle s'est faite. Pour une part, à cause de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, et parce que les Alliés ont trouvé là une façon de fonder le mythe de leur une sorte de pureté, d'honorabilité, etc. Et ils ont montré encore avec les guerres coloniales à quel point le racisme était ancré. Quoi. C'est après les guerres coloniales que vraiment il y a eu. Il y a eu extension réelle d'une condamnation du racisme, plus que simplement sur le papier. Mais j'ai l'impression que c'est vachement lié à la victoire contre le nazisme, et ensuite il y a des intérêts politiques liés à l'après-guerre, et ensuite à la fait qu'il y avait plus de colonies, et du coup c'était une idéologie qui devenait beaucoup plus facile à condamner parce que.
Ça a mis du temps.
Ça a mis du temps, et puis il faut relativiser.
C'est pas direct l'après-guerre, c'est vraiment les 30 glorieuses qui ont condamné le racisme.
Oui.
C'est vraiment les périodes des 30 glorieuses qui ont condamné le racisme. Parce que tu regardes l'après-guerre, certes, c'est l'antisémitisme qui a été aboli, et comme c'était un point fort du racisme, mais après, ça n'empêchait pas qu'il y avait du racisme envers les Algériens. Ça n'empêchait pas qu'il y avait encore des lois raciales aux États-Unis, et ainsi de suite. Il a fallu.
Je pense qu'il faut relativiser. Ensuite, il y a eu polarisation sur l'apartheid. Je ne sais pas exactement pour quelle raison. Mais ça n'empêche pas les chefs d'État français. Ont l'habitude de faire des déclarations qui sont extrêmement racistes et qui ne sont pas très loin de déclarations pour l'apartheid. Là, Chirac, très récemment, a dit que les peuples africains ne semblent pas mûrs pour la démocratie. Pas mieux pour la démocratie. Je ne sais plus lequel c'était nécessaire, il y a un truc similaire. À propos de génocide au Rwanda, Mitterrand a dit ça.
Oui,
un ennemi de Rwanda sur les Indes, je ne sais pas trop important. Ce qui n'était peut-être pas directement, enfin, ce qui était peut-être un peu plus simplement de géostratégie, je voulais simplement constater qu'on pouvait se permettre un chance sans problème. Mais je pense qu'il faut relativiser. Effectivement, il y a à la fois une idéologie antiraciste et une idéologie officielle, mais en même temps qui est une sorte de qui ne s'entre pas non plus très profondément. Hein.
Il n'est pas intéressé à leur survie.
il achète seulement la force de travail qui est un travail abstrait, qui est mesuré par le salaire, par l'argent. Alors je pensais que l'esclavage dont tu as parlé, l'esclavage des Noirs, était un passage moyen entre les deux situations, parce que tu as dit que le maître n'était pas intéressé à la survie des esclaves, il était pareil, s'il mourait, il allait en acheter...
C'est un cas, un exemple, c'était comme ça.
Voilà. Alors je crois que c'était lié au moyen de l'économie capitaliste, à l'économie capitaliste, et que l'esclavage dont tu as parlé était une forme d'esclavage très différente de l'esclavage à l'âge ancien, au Moyen-Âge. En fait, les esclaves, le travail des esclaves produisait des marchandises que les maîtres allaient vendre et n'utilisaient pas pour eux-mêmes, voire directement. C'est pour ça que je me dis que l'abolition qu'on a obtenue dans le 19e siècle, je crois que ça a très peu à faire avec la fin de l'idéologie raciste. C'était seulement, c'était comme une uniformisation du travail des esclaves au travail des ouvriers qui étaient déjà exploités dans les usines européennes.
Je ne comprends pas la distinction avec l'esclavage ancien. Là, je veux dire, pourquoi est-ce que l'esclavage antique, pourquoi est-ce qu'il avait plus un intérêt à la survie de son esclave? Est-ce que, on peut imaginer qu'il aurait pu s'en procurer un autre, exactement comme l'esclavage moderne? Ou alors c'est parce qu'il n'y avait pas un marché, il n'y avait pas une traite organisée?
Je crois que c'est pour ça, mais... C'est Marx qui le dit, mais je crois que c'est pour ça qu'il n'y avait pas de population de potentiels esclaves
continués, réguliers.
Il y avait des familles d'esclaves, c'était une classe sociale. Les esclaves avaient l'argent.
Mais dans ce cas-là, c'est pas lié au fait que le propriétaire mange directement le produit du travail de l'esclave. Parce qu'entre manger directement ou pouvoir revendre pour vivre avec le produit de la vente, ça revient au même. Enfin, je ne comprends pas la distinction entre travail abstrait et travail concret. Je comprends que...
C'est dans le lien au maître, en fait. C'est plus concret et un lien abstrait.
Dans l'Antiquité romaine, par exemple, la situation des esclaves est très différente
de celle des esclaves. C'est des familles, dans un cas. Les marchandises que l'on va chercher, enfin, il n'y a pas de différence.
C'est une force économique, puisqu'il y a un patricien qui, à un moment donné, au moment de la chrétienne, va affranchir ses 3000 esclaves en une journée, et ça fait un krach boursier. Donc, à partir de ce moment-là, à Rome, il y a une loi qui est édictée où on n'a pas le droit d'affranchir tous les pauvres esclaves par an. Et le rapport n'est pas tout de même. Il y a quand même un lien, même si l'esclave est à son statut. Il y a quand même un lien particulier entre le maître et l'esclave, même si le maître a droit de vie et mort sur son esclave, bien évidemment.
Peut-être aussi, d'ailleurs, on va mettre tous les esclaves à l'antique globalement, tout mettre sous le même mode, parce qu'il y avait certainement aussi à l'époque les grandes exploitations agricoles dans lesquelles il y avait de la colonisation, dans lesquelles il y avait une force économique abstraite qui probablement, malgré tout, commençait un peu à exister. Et puis il y avait aussi des esclaves qui faisaient partie de la vie domestique et qui avaient donc des relations complètement différentes, qui étaient parfois intégrées à la vie familiale.
Après, moi, je le rapprocherais du lien concret qu'il existe entre le maître d'un animal domestique, tel un chien, ou un ancien esclavage, et le lien qu'il y a entre un exploitant agricole et ces bêtes de rente dans lesquelles il y a un turnover très grand.
Déjà, semble-t-il que
dans les cas, il y a un lien concret.
Le turnover était nettement moindre.
Oui.
Oui, alors dans ce que j'ai lu, c'était attribué au fait que le travail humain était moins difficile que le travail de la canne à sucre. Donc, pareil, ça peut se faire expliquer.
Parce que c'est l'organisation à la canne à sucre au carré, c'est aussi l'organisation intensive. Enfin, je ne sais pas si on peut dire intensive, mais en tout cas, pour ce qui est du travail, c'est-à-dire que ce n'était pas un travail à la tâche où il fallait travailler de telle heure à telle heure, un travail sans fin. Sans objectif limité, qui était constant, qui était comme une industrie en soi. Donc, ce n'est pas la même chose qu'un travail où il faut ici faire ceci et là faire cela. Ce n'est pas simplement de main-d'œuvre servile pour la vie quotidienne, c'était une main-d'œuvre esclave pour un rendement sur une production donnée. Déjà, ça a un caractère industriel et. Donc il y a des liens, effectivement, des liens interpersonnels, d'un plan en jeu. On est passé à un type de production, oui, d'agriculture, de monoculture industrielle. On peut faire ce rapprochement, ben moi je l'ai entendu comme ça, j'ai peut-être faire ce rapprochement entre le lien qu'il y avait entre dans la paysannerie traditionnelle, qui n'était pas forcément idéal, mais qui quelquefois était très fort, entre les paysans et leurs bêtes de somme par exemple, leurs bœufs, leurs chevaux, leurs animaux, et puis les rapports aujourd'hui entre les ouvriers, y compris d'ailleurs traités comme eux-mêmes plus ou moins comme des bêtes, et puis écarissant des animaux comme si c'était de la matière végétale ou inorganique. C'est aussi quelque chose qui était.
Ouais, est-ce que la conclusion c'est que l'esclavage ancien c'était mieux et que c'était plus moche? Non, ça tend un petit peu à.
L'esclavage tradique ou l'esclavage
industriel. Voilà, que chacun reconnaisse. On connaît le goff qu'il est en train d'écarrir, ou le bio, que ce soit le goff lambda.
L'esclavage bio. Dans le livre que tu as lu, ils disent explicitement que les abolitionnistes étaient gardés une vie raciste.
Comme ça,
mais... Et est-ce qu'il y en avait qui réfutait cette idéologie raciste?
Oui, il y a deux exemples, oui. Ouais.
Donc il y avait quand même les outils pour réfuter cette idéologie là.
Oui. L'égalité. L'égalité humaine, oui, ça revient très fréquemment. Dans les révoltes d'esclaves, il y avait fréquemment, en particulier après la Révolution française, c'était liberté, égalité.
J'ai l'impression aussi que ce qu'on appelle l'idéologie raciste quand on lit ce genre de texte, c'est des choses qui sont qui sont pas racistes au sens où nous on se dit antispéciste par exemple. C'est-à-dire que nous on se dit antispéciste, pas tout le monde ici, mais voilà. Je me dis antispéciste, d'autres se disent antispéciste, mais on ne dit pas par exemple que les animaux sont aussi intelligents que les humains ou des choses comme ça. En même temps, je pense que avec le recul, si on imagine que dans 4 siècles on regardera ce que l'on écrivait ou ce qu'on pensait, je pense qu'on se rendra compte qu'on passait complètement à côté de beaucoup de choses par rapport aux capacités des animaux et que d'une certaine façon on a un regard très spéciste sur. Les animaux, parce qu'on vit dans le temps et qu'on n'a pas les moyens aussi, on n'a peut-être pas entièrement la volonté, mais on n'a aussi pas les moyens simplement de s'en libérer. Et que, est-ce que les gens que toi tu dis racistes, est-ce qu'ils étaient racistes au sens qu'ils n'accordaient pas, par exemple, la même importance aux intérêts d'un noir que d'un blanc? Ça, je suis pas sûr. Ou est-ce qu'ils étaient racistes dans les citations qu'on cite pour dire qu'ils étaient racistes? C'est toujours un petit peu, les Noirs ont besoin d'éducation, les Noirs ne sont pas capables, etc. etc. Ce qui est un racisme, disons, factuel, un racisme au niveau des capacités factuelles des êtres, que nous, on peut considérer dans un certain sens qui n'est pas un racisme, qui est une mauvaise information sur une réalité. Mais...
Oui, de ce que j'ai vu, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que les affirmations d'égalité, c'était clair et net, ce sont des hommes, ils sont égaux aux autres, ils ont le droit de vote pareil, enfin, pareil. Ça rejoint ce que tu dis, que c'était plutôt un racisme de méconnaissance des capacités, ou parfois juste au titre de point culturel ou autre aussi.
Ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'empêchait absolument pas le déploiement, cette production, le Saint-Urbain de Ré. Tout ce qu'on a dit, ça laisse pour moi intact le mystère de cette incroyable énergie qui s'est emparée de l'Angleterre pour secouer ça. Ça reste comme un mystère.
Est-ce qu'aujourd'hui en Angleterre, il n'y a pas déjà combien de végétariens c'est... Enfin, il y avait 300 000 personnes qui refusaient de manger du sucre. Je ne sais pas combien il y avait d'Anglais à l'époque. Mais combien de végétariens aujourd'hui en Angleterre, plus que de gens qui refusaient de manger du sucre à l'époque en Angleterre. Proportion. Proportion de population.
Avec des contradictions, parce que par exemple, les Quakers, les plus grands d'avoir des Quakers, ils mettent du sucre dessus.
Tout le monde aura attention.
Il y a un truc, juste remarque sur le fait que l'abolition de l'esclavage et l'abolition de l'idéologie raciste, c'est un truc qui va ensemble, tout ça, mais c'est des concepts, quoi. Je veux dire, l'abolition de l'esclavage, on peut aussi.
L'esclavage, c'est quelque chose de clair. Pardon. L'abolition, c'est un décret qui dise que tous les hommes, quels que soient la couleur de peau, sont des citoyens qui n'ont pas le droit d'être propriété, que la traite ouvrière est interdite. C'est des choses extrêmement concrètes qui touchent de la réalité. Enfin, c'est pas que des mots, quoi.
Tout comme donc, le fait qu'officiellement, il n'y a pas de racisme. Enfin, je veux dire que les deux, au niveau officiel, le racisme est aboli, l'esclavage est aboli. Au niveau des réalités, l'esclavage continue, le racisme continue, quoi.
Il est interdit.
Continue, mais moi, vous semblez un peu dire comme si l'abolition de l'esclavage n'avait pas eu... Enfin, comme si c'était pareil qu'il n'y ait pas eu, ou que la limite c'est pire à cause... Vous n'avez pas dit ça, mais enfin, je pense que cette abolition de cet esclavage-là, de ces pratiques-là, de ce commerce-là, etc., a été positive pour ceux qui et à terme ça a rendu moins légitime et moins durable d'autres formes selon l'esclavage qui est ensuite, etc. Quoi.
Ouais.
Après qu'il y ait...
C'est pas ça que je voulais dire. C'est une remarque. Et l'autre chose que je voulais revenir, c'est avant la pause, sur ton exposé, en fait, ça m'a rendu un peu pessimiste parce que j'ai eu l'impression que avant que les révoltes des esclaves avaient une importance assez capitale dans l'évolution pour arriver à l'abolition de l'esclavage.
Oui.
Et donc jusqu'à la pause, je me suis dit, enfin en pensant à ce que moi et d'autres personnes peut-être dans la salle pensent, enfin, essaient d'instrumentaliser pour la lutte par rapport aux animaux. C'est-à-dire quand tu fais cet exposé, moi je pense aujourd'hui, ce que je peux en tirer comme conclusion pour aujourd'hui. Il y a un intérêt que pour ça, aujourd'hui. Et donc ça me rend un peu pessimiste, parce que je me dis, comme tu l'as dit toi-même, les animaux, ils n'auront pas la capacité de s'organiser, comme il y a eu des révoltes, comme tu nous as décrit, a priori elles ont été importantes. Et puis dans la deuxième partie, plus courte, mais plus en réfléchissant un peu, avec la position justement des Anglais qui étaient finalement loin des champs de coton et tout ça, de ce qui pouvait se passer par là-bas, en fait, et pourtant qui ont eu petit à petit une évolution des mentalités dans la position. Mais finalement, ce qui a été important, c'est pas tellement pour arriver à la position, c'est pas les esclaves qui se sont révoltés directement qui a été important, c'est le fait qu'on les suive enfin, c'est la communication,
l'interaction, quoi.
Oui.
Je veux dire, c'est parce que les Anglais qui ont eu l'idée de l'abolition, c'est eux qui avaient le pouvoir d'abolir et qui n'ont pas les esclaves. Et finalement, ce qui a été important, c'est plus que ces révoltes soient arrivées jusqu'à leurs oreilles, quoi. Et quelque part, je me dis que ce qui est important, c'est plus d'ouvrir des fenêtres sur ce qui peut passer sur les élevages, sur les animaux, tout ça. C'est pas tellement ce qu'ils ne voyaient pas de leurs yeux, quoi. C'est ce qu'ils pouvaient imaginer, c'est ce qu'on leur racontait. Et qu'il n'y a pas finalement tant de différence entre le fait de dire que le canard, quand la machine arrive pour l'embuquer, il se retourne dans sa cage, il se planque au fond de sa cage, tout ça. Il n'y a pas tant de différence finalement avec le fait de savoir que les esclaves se révoltaient. Quoi. Parce que je veux dire que c'est un pessimiste, peut-être cynique, mais les esclaves se révoltaient, mais finalement c'est aussi parce qu'il y a une conscience bourgeoise peut-être qui a réussi à faire évoluer ça. Quoi. Je suis pas sûr que s'il n'y avait pas eu cette communication, c'est une bataille de communication plus que de...
Oui.
Enfin, il y a eu des faits qui ont permis de communiquer à la société anglaise qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui n'était pas juste, qu'il y avait une révolution des gens, que les esclaves n'étaient pas bien. Quoi. De la même façon qu'aujourd'hui, on peut communiquer ça aussi par rapport aux animaux. Et ce n'est pas forcément la capacité d'organisation des esclaves qui a fait jouer.
Je
comprends pas dans le concept. Je voulais répondre en précisant ce qu'il avait dit.
Mais il me semble que ça change rien. Enfin, je dirais, il faut quand même que les révoltes d'esclaves aient lieu pour les événements d'impact.
Oui, mais ce que j'étais pessimiste dans le sens où les révoltes des animaux, je me suis dit, elles n'arriveront jamais au niveau où elles ont été dans les esclaves. Tu vois ? C'est ce qu'on veut voir. Ce qui compte, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on interprète de ces révoltes. Que concrètement ce qui se passe sur place. Quoi.
Non, mais c'est, moi je trouve que c'est optimiste.
Oui, ça devient optimiste. Je veux dire, à la prochaine. Ah,
pardon, d'accord.
Mais,
à mon sens, c'est que les révoltes d'esclaves, elles ont précipité les votes des parlements, les décisions des États. Mais c'est pas elles qui ont été déterminantes, à mon avis. Pour faire l'évolution de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu deux phases. Il y a eu une évolution de l'opinion publique qui a fait que la question de l'esclavage est devenue un thème de débat, une vraie question politique centrale, et que ça a été débattu. Et là, effectivement, c'est là où je rejoins, c'est que les révoltes d'esclaves, à ce moment-là, ont été sans doute utilisées comme un outil parmi d'autres pour montrer qu'ils souffraient, qu'ils n'étaient pas
bien. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'esclaves auparavant.
Voilà. Mais
après... Par parole des esclaves auparavant.
Oui, mais ce n'est pas sur cet aspect-là des choses que j'évoquais avec les esclaves, c'est sur le fait que les décisions d'abolition effective, les votes des parlements, ont été précipitées par des peurs que des nouveaux syndromes se reproduisent, c'est-à-dire des pertes de colonies qui passent aux mains des insurgés. Voilà. Donc après combien de temps l'opinion publique serait restée mobilisée sur ce sujet, ou rendormie, remobilisée, enfin, mais sur une longue durée, jusqu'à ce qu'il y ait un vote, c'est une question... Je
ne
sais pas, moi j'imagine que ça
va
retarder simplement.
L'histoire de Saint-Domingue, enfin, tu as raconté, en fait, c'est pas simplement les esclaves risquaient de mettre en danger la domination française sur l'île, c'était qu'il y avait une division parmi les esclavagistes, enfin, il y avait une division entre les Anglais et les Espagnols, je crois, et les Français, c'est-à-dire que. Les esclaves ont profité de cette division. Et si, par exemple, parmi les Anglais et les Espagnols, il n'y avait pas aussi la potentialité, s'il n'avait pas été imaginable de libérer les esclaves, c'est-à-dire s'il n'avait pas été dans l'air l'idée de libérer les esclaves, eh ben, on aurait eu tout le monde qui aurait dit mais de toute façon, on va prendre l'île pour. Il n'aurait pas été question qu'il y ait une alliance entre les esclaves et les Anglais et les Espagnols. Donc c'est quand même bien, enfin, le fait même que la révolte des esclaves ait une importance, une influence, est dépendante du fait qu'il était envisageable, au niveau des idées, de libérer les esclaves. Après, je veux dire, leur puissance militaire même venait de ça, quoi.
la peur, elle aurait pu aussi faire une escalade dans la répression, dans la technologie.
Dans l'économie. C'est le cas.
Pas tellement en train de la bouillir, mais dans le faire de la répression. Il y avait sûrement les moyens technologiques, tout ça. Sur une dissymétrie technologique, ce serait difficile de faire. Les gens qui ont été mis en esclavage sur la question des armes et de la répression.
Aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a peu, enfin, j'ai pas étudié, mais comme ça, de loin, j'ai quand même l'impression qu'il y avait peu d'influence de la révolte des esclaves par rapport à l'abolition. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler d'une influence sérieuse, à part des cas individuels d'esclavage, d'esclaves qui s'échappaient et qui après protestaient contre l'esclavage. Mais, des révoltes de force militaire, non?
Si, c'est une influence majeure, mais elle est suffisante.
Soit aux États-Unis, je sais pas.
Alors que sur la ségrégation, c'est exactement l'inverse.
Elle est majeure, enfin, je veux dire, cette révolte des
esclaves. Je parlais précisément aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, est-ce qu'il y a eu des révoltes d'esclaves notables? Aux États-Unis même
organisé.
Oui, on connaît l'histoire. Non,
au moins le collectif. Non, on connaît assez bien l'histoire de.
Ouais, mais par contre, sur la ségrégation, c'est clair que c'est quand même la marche noire.
Ouais,
leur action.
Sur la ségrégation, oui.
C'est clair que qu'ils ont eu deux autres luttes d'eux-mêmes, quoi.
Oui, mais ils avaient déjà été libérés de l'esclavage, c'est-à-dire qu'ils avaient
les
outils, les possibilités de le faire.
Ils avaient les outils.
S'il n'y a pas de révolte, il n'y a personne pour l'avoir.
Non, mais.
Il n'y a pas eu non plus anti-esclavagiste.
Non, mais de révolte individuelle,
c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, la description de la traite des pierres, pour les pierres révoltées à l'époque, une personne comme révolte ici, qui dit son dit, je vais faire quelque chose contre ça, sans nécessairement qu'il y ait une insurrection d'esclaves.
Mais au-delà de la révolte, ce que tu disais aussi, c'est que c'est pas la révolte, mais les pertes économiques et humaines qu'on pensait à ces lois-là, et que ça montre peut-être que des fois, on a peut-être tort d'être frileux avec certains arguments, comme les arguments de santé publique, les arguments qui touchent les humains et qui touchent l'économie, et que stratégiquement, c'est peut-être pas idiot aussi, et que c'est souvent ça qui fait gagner.
L'impact économique, ça, je suis sûr que c'est un bon axe.
Oui, mais là, il y avait aussi. Sur les colons qui jouaient aussi.
Oui. Mais sur la
je pense qu'on devrait faire des actions de tuer les chefs de syndicats.
Non, c'est pas ce que je dis, mais par exemple, quand je pense aux animaux de cirque et à l'éléphant qui se révolte contre son maître et qui risque de tuer, inciter sur des trucs comme ça, c'est peut-être pas si idiot que ça, parce que dans ce cas-là, c'est ça qui a fait tenir l'abolition.
Sur les aspects économiques, on en a quasiment pas parlé, mais il y a eu des changements, notamment autour du sucre, l'émergence de la betterave à sucre, qui est aussi un facteur, c'est pas le seul, mais c'est déterminant dans la perte de poids économique à terme prévu et donc politique aujourd'hui des planteurs, et que du coup la métropole et les consommateurs se sont dit on peut se passer du sucre de canne, parce que du sucre de betterave, il coûtera peut-être pas moins cher, etc. Enfin, et que là, à mon avis, ils ont perdu à ce moment-là une forte solidarité qu'il y avait avec groupe en métropole, mais et que je pense que c'est quelque chose qui manque au mouvement animaliste aujourd'hui, c'est une analyse plus forte des tendances économiques liées, alors, dans ce cas-là, autour de la viande, la production animale, et qu'il y a déjà des signes, sur certaines listes internet, il y a deux, trois petites choses que vous avez discutées, qui, à mon avis, mériteraient qu'on les étudie beaucoup plus près. Il y a déjà une baisse de la consommation de la viande, c'est déjà un fait, il y a une transformation forte de cette baisse. Pour ce qui n'a pas baissé, en tout cas, il y a un changement d'achat entre de la viande du type steak, les animaux, on voit vraiment le cadavre avec dans la barquette ou sang, ou l'animal entier qu'on achète, le lapin à moitié désossé, hein, vers des produits où la viande ne se voit plus, que la viande est dans un plat préparé, ça vient d'ingrédients parmi d'autres, quoi. Donc Donc ça, c'est pour moi un facteur qui est très très déterminant. C'est-à-dire que si effectivement cette tendance se poursuit, sans même parler de la baisse de la consommation de la viande elle-même, qui porte bien le cœur du problème, et même des changements du type, c'est plus de la viande qu'on achète comme un plat, dans lequel on met entrée, viande, dessert, quoi, et que c'est un ingrédient comme d'autres, le fait que quand on se met à parler d'abolition de la viande et à dire est-ce qu'il y a vraiment besoin de cette viande dans la société déjà, à faire connaître que c'est pas nécessaire d'en manger pour être en bonne santé, mais aussi de dire quelles sont les résistances économiques qui vont se lever à ce moment-là pour refuser. Elles vont être beaucoup plus faibles que, enfin, si c'est des plats préparés, c'est beaucoup plus faible, les plats composés, c'est beaucoup plus faible aussi parce que le secteur de l'alimentation est maintenant détenu principalement contrôlé par la grande distribution, les grands services de restauration, je mets là-dedans McDo, mais la Sodexo, etc. Et que c'est pas les producteurs de vaches, de cochons qui ont le contrôle sur ce marché. Enfin, ils parlent sans arrêt du fait qu'ils sont en crise. Bon, alors on va dire qu'ils sont toujours en crise, mais c'est quand même pas tout à fait faux qu'il y a quand même, je pense, plus de problèmes de crise structurelle des productions animales dans certaines d'entre elles que de crise de la grande distribution ou du secteur de services de restauration. Quoi. Et que pour ces agents économiques qui ont le contrôle du marché de l'alimentation, le fait de dire qu'à un moment donné, il y a un transfert de consommation ou une abolition qui aboutit à ce que de la vente de viande devienne de la vente de tofu, de je sais pas quoi, de champignons, machin. Je veux dire, en gros, ils s'en fichent. Dans le rayon, ils vont diminuer petit à petit la taille de la boucherie, ils vont monter sur les plats à côté. Et pareil pour les industriels qui sont de plus en plus multi-aliments, qui sont de plus en plus rares à fabriquer que des steaks, je sais pas, Charal, ils font tête, mais la plupart, enfin, je sais pas, Danone et tous les autres, qui fabriquent des boîtes, des trucs, dedans, il y a de la viande, il y a du poisson, il y a des légumes, il y a du tout, quoi. Et que pour eux, d'aller changer l'ingrédient, à un moment donné, ça ne marche pas nécessairement dans le marketing. Et ça, je pense, c'est des facteurs qu'on néglige et qui, à un moment donné, ont un poids politique très fort, parce que c'est des résistances politiques qui ne se lèveront pas à ce moment-là. Un autre facteur aussi, c'est la diminution du nombre d'agriculteurs dans la société. Il y a un effondrement qui est encore en cours, qui n'est pas tout à fait achevé, je pense, du nombre d'agriculteurs. Alors, dans les agriculteurs, il y a donc les productions animales, si on parle de la viande, de production animale, et qui n'est pas du tout compensé, à mon avis, par le nombre de personnes dont le travail dépend de manière très directe des productions animales dans la chaîne aval. Quoi. Parce que très vite, comme je disais avant, ça se disperse dans toutes les petites sources. Et que. Je crois qu'en France, à quelques années près, je ne veux pas me tromper, on est au niveau où était l'Angleterre dans les années 70 en termes de pourcentage de la population dont dans l'agriculture, donc notamment dans l'élevage. À mon avis, ce n'est pas tout à fait hasard si en Angleterre, les choses sont beaucoup plus avancées de ce point de vue-là qu'en France. Aussi parce que le poids politique est beaucoup plus faible. Et comme le personnel politique se renouvelle après un certain temps, je veux dire que les gens qui sont au pouvoir, les députés, encore plus les ministres, etc. Et puis dans toutes les institutions qui tournent autour, c'est plutôt 4-50 ans. C'est-à-dire que la génération aujourd'hui est encore sociologiquement similaire à ce qu'il y avait un certain nombre d'années en termes de répartition des catégories. Et qu'à mon avis, on va voir un écroulement du poids politique du secteur de l'élevage. Enfin, on est en train de voir, et il va se renforcer de manière impressionnante, c'est-à-dire par un facteur entier, puisque c'est plusieurs. Facteur entier par lequel il était diminué dans les années à venir, qui vont changer complètement les résistances face à une exigence du monde d'abolition. Et le dernier point, pas trop longtemps, c'était que je pense qu'on a tort de penser que le nombre d'opposants à une demande d'abolition, alors soit le foie gras, la viande, la corrida, je sais pas quoi, est égal à. Enfin, si on est 5, on pense qu'on est 5% à être contre, que les opposants, c'est les autres, quoi, 95%. En fait, dans des mouvement comme ça, je pense qu'il y a une minorité active d'opposants, une minorité active dans l'autre camp, et puis qu'il y a une immense masse de personnes qui sont appelées passives, pas intéressées, qui suivront le mouvement. Quoi.
Moi, je dirais qu'ils sont complices. Ça n'engage que moi.
Alors, on peut les appeler comme ça. Bon, ouais. Moi, je vois par exemple, pour un exemple concret, ma mère, elle mange de la viande, mais il paraît clair qu'elle ne serait pas opposée à une demande d'abolition. Je pense même que si elle voyait qu'autour d'elle, il y a d'autres personnes un peu comme elle qui soutenaient, elle-même soutiendraient. Voilà. Et alors qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à la classer dans les personnes qui sont opposées à l'exigence d'abolition. Et je pense que moi, je me rends compte que quand j'explique que je suis végétarien et que je pense que la viande ne devrait pas exister, c'est assez rare qu'on me dise que pour moi-même ce soit un choix absurde. En général, on me dit que oui, c'est cohérent, je vote de ton point de vue, tu as raison, c'est bien ce qu'il faut faire. Enfin, moi, j'ai toujours un commentaire plutôt positif par rapport à ça. Le problème vient quand on dit on pense que tu devrais l'être aussi, quoi. Mais sur la question du bien fondé, de la remise en cause de manger les animaux et de les tuer, là aussi il y a une adhésion. Quoi. C'est-à-dire qu'on dit, tu poses une question qui mérite d'être posée. Moi j'ai rarement une réaction en me disant qu'elle est débile cette question. Après on renvoie des arguments, parfois de surface, parfois quelqu'un qui est effectivement les croit. Mais donc, j'ai le sentiment que moi ces gens-là, qui je m'adresse, je suis pas sûr que s'il y a un début de prise d'opinion publique, une minorité forte qui s'exprime, qui se fait entendre. Ce ne seront pas des opposants, ce sont des gens qui
voteront. Il y avait un sondage, une étude où il ressortait qu'une proportion pas du tout négligeable de la population française répondait non à la question est-ce qu'il est légitime de tuer un animal pour manger, quoi. Je ne me rappelle plus les chiffres. Ouais. Il y avait plusieurs formulations, mais c'était impressionnant. Ouais. Il y avait aussi l'idée qui était passée sur les listes, je ne sais pas si c'était pas Estival, c'était le fait que c'est pas vrai que le consommateur il vote avec son porte-monnaie quand il achète les choses, quoi. C'est-à-dire d'une certaine façon c'est vrai qu'il vote en achetant les choses, mais en même temps qu'un consommateur a beaucoup plus de mal à concrétiser dans son acte d'achat ses convictions. Alors je ne comprends pas très bien pour quelle raison. Mais un peu, on est pour le commerce équitable, par exemple, mais face à un paquet qui coûte 3 euros au lieu de 2 euros, il y a quelque chose de l'ordre de l'inhibition, ou je ne sais pas quoi, qui fait que c'est impossible pour nous le faire, quoi. Enfin, qu'on a nécessairement le réflexe de prendre le moins cher, pareil pour le fait d'acheter de la viande ou pas, je pense. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose, quelqu'un peut très bien être convaincu que c'est pas légitime, être prêt à voter pour l'abolition de la viande, tout en achetant de la viande, parce que c'est ce qu'il fait. On parlait du fait que dans une famille, il faut qu'il y ait tous les membres de la famille qui soient végétariens. Pratiquement, en pratique, c'est difficile pour un membre de devenir végétarien sans que les autres le soient.
Moi, il y a un truc qui me semble de plus en plus inquiétant, c'est que dans la partie adverse, par le biais de la gourmandise, ils vont diversifier. On n'a jamais vu autant d'élevages d'autruches, et ça c'est très très récent, c'est moins de 10 ans. Hein. On n'a jamais vu autant d'élevages d'ânes, le gris, l'âne de Hollande, etc. Chez nous, dans le pays, ça se fait de plus en plus. Mais pour en revenir à l'Autriche, surtout, alors circule, je ne sais pas qui a lancé cette idée complètement con, l'autruche, comme ce n'est pas un mammifère, ce n'est pas de la viande. Et ça, on entend de plus en plus.
Ça pose un problème.
Comme le poulet, c'est pas de la viande. Ouais. C'est pas un mammifère. Donc tout ce qui est oiseau, alors élevage évidemment de faisans de chasse, il n'y a pas que lui, il y a le faisan du Japon, etc. Donc les grands, les éleveurs, ils diversifient leur truc et ils se tournent de plus en plus vers la volaille, ce qu'ils appellent la volaille. Et l'autruche, je crois qu'elle est à la mode. Ici, la vache qui est à côté, là, il a 3 ans.
Il y a un élevage d'autruche.
Oui, on est passé à côté.
Il y a
ses meules
aussi.
Les meules. Et tout ça, c'est pas de la viande, c'est pas des mammifères. Et pas qu'on va le dire en tête, le fameux couturier, oui.
Non, mais de la même façon que le poulet, le poulet n'est pas placé comme de la viande.
Oui, c'est pas de la viande.
Il a dit que la terre explosera en 2000, je pense qu'on va un peu le suivre.
Ça, c'est bon.
Je voulais juste dire, Antoine. C'est ta mère. Excuse-moi, quand tu parlais de ta mère, Parce que là, je parlais avec les jeunes, mais franchement, c'est pas mal à veille qu'ils vont arrêter de manger la viande. Il y a quand même. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même la France profonde. J'ai la voix qui me tirbait personnellement, moi je le dis franchement. Et je veux dire que la viande, c'est bon, quoi. C'est, en plus, c'est une histoire de domination aussi. Les animaux, ils sont là pour ça, quoi. Ils se disent, ouais, il n'est pas prêt à disparaître, quoi. En plus, dans ton exposé, tu es trouvé quand même très long. très brillant, mais trop long. J'ai pas bien saisi. Je sais pas s'il y a une personne ici qui n'est pas en végétarienne, mais pour moi, la liaison n'a pas été assez claire quoi, entre l'esclavage des animaux et l'esclavage des humains. Et en plus, je trouve que tu as fait l'impasse sur. Parfois, les animaux se révoltent. Il y a eu des exemples, dans le sens qu'il y a eu pas mal d'animaux qui sont échappés à l'abattoir. C'est d'ailleurs sur l'organisation de l'OABA, c'est fondé sur ça, sur une annexe que Mme Girardoni a trouvée complètement désespérée. Mme Girardoni s'est renseignée, une annexe qui était sortie d'un abattoir. Donc, ça, elle n'était pas végétarienne, ça a fait un choc à Girardoni. C'est comme ça qu'elle a créé la présence de l'abattoir. Il y a eu récemment, il y a un an ou deux, il y a des vaches qui sont parties d'un abattoir. Elles ont été récupérées en Amérique, en Angleterre, des cochons. En Angleterre, ça fait un truc hyper médiatique. Ils ont lancé un hélicoptère à la recherche de cochons. Ils ont commencé à lancer une souscription pour sauver ces cochons, ces deux cochons. Ils ont réussi à les rattraper. Ils ont été placés dans une ferme. Et ils ont un nom, Liberty, je ne sais pas quoi. Et ces deux cochons sont sauvés à vie. Je ne sais pas si ça remet en question la consommation de viande. En France, il y a une vache qui s'est échappée, elle a été rachetée par One Voice, qu'ils ont appelé Liberty aussi. Au Japon, ils ont tué des dauphins parce qu'ils ont accusé, les Japonais les accusaient de consommer pour le poisson. Le jour où ils ont tué des dauphins, le lendemain, il y a eu tout un. Ils n'ont pas pu bouger les poissons. Les pêcheurs, parce qu'il y avait tous les dauphins des environs qui se sont groupés dans le port et c'était impossible d'avancer un bateau. Le lendemain de ça. Je trouve que tu aurais pu parler de ça, de l'arrivée des animaux, peut-être ça aurait permis de faire aussi une liaison entre.
Ça aurait pu être fait. Mais toi, tu nous ferais bien parler.
Non, enfin, moi, je ne sais
ça
pas si
ça peut faire en deux parties, il y avait déjà de la densité dans son projet quand même.
Enfin, ce que j'aimerais savoir, c'est si quelqu'un qui n'était pas végétarien ici, est-ce que ça lui a fait tilt ? Parce que moi, je suis sûre que j'amène un jeune ici, de mes jeunes à moi, mais rien à voir de cet exposé. Je ne crois pas
qu'il... J'espère, parce que sinon, c'est qu'il aurait été raté. Enfin, parce que ce n'était pas le but visé.
Non, mais franchement,
j'entends ce que tu dis, c'est autre chose à faire que je n'ai pas fait, que je poursuivais. Ah oui.
Mais par contre, c'est vrai que tu ne t'as pas un exposé là-dessus, parce que tu parles de pratique, je n'ai pas connaissance de tout.
PETA fait ça en ce moment, il y a une campagne, je ne sais plus le terme, mais qui est lancée il y a 15 jours à peu près, en fait, qui est ça, sur les parallèles entre l'exploitation animale et l'exploitation humaine, avec une grosse concentration sur l'esclavage, sur leur site, et puis sur
enfin, moi, je suis la seule qui m'a exposé.
Oui, oui, ce n'était pas le but, en fait.
Ah, bah, alors, j'ai compris, c'est vrai que j'ai compris.
Il y a un truc aussi qui n'a pas répondu, peut-être on a parlé quand je n'étais pas là, c'est ce que j'appellerais « et Dieu dans tout ça », c'est-à-dire la position de l'Église, surtout en Angleterre. Tu as eu des infos là-dessus est-ce qu'ils sont restés pour cul ou est-ce qu'ils étaient devant, derrière
C'était après les livres, quoi, en général, quand même. C'est
la vision habituelle.
Greg Warkin, je crois, qui a fait une déclaration, mais très très tardive, de condamnation. Mais c'était au moment où c'était déjà les animaux retrouvés, tout le monde se demandait comment est-ce que ça allait retrouver.
Donc ça faisait bien assez de vrai. D'accord. Le repas est prêt.
Ok, si.
Tout à fait, je suis tout prêt. C'est la bande des jeunes filles qui l'a fait.
Les Quakers, c'est un.
Vous ne pouvez pas y aller.
On arrive.
Dans le processus, il y a eu. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est j'avais des idées un peu simplistes de la manière dont les choses pourront se passer. Alors que, en fait, on voit que, à partir du moment où il y a une opinion publique, on va dire favorable, en fait, enfin, qui était concernée par le problème, où c'était débattu, ce qui veut dire pour moi, du coup, c'est quelque part favorable, c'est qu'on reconnaît qu'il y a un problème. Si on n'en parle pas, on reconnaît qu'il y a un problème, on en discute. Et bien, sur une centaine d'années, il y a des choses très, très complexes qui sont produites, c'est-à-dire que. D'abord, il faut voir qu'il y a plusieurs pays, et il ne se passe pas les mêmes choses dans chaque pays. Un premier pays qui fait le pas devient un allié. Je n'ai pas parlé du rôle de la Grande-Bretagne plus que ça, mais en fait, la Grande-Bretagne a investi énormément pour interrompre la traite négrière des autres pays, a signé 30 accords avec différents pays pour demander d'arrêter. Il y a des organisations de congrès internationaux, enfin, un travail énorme de l'Angleterre pour faire avancer les choses, parce que ce n'est pas là où elles sont sans ça. Donc un pays qui avance, du coup, que ça change la donne, la Lucène même. Après, il y a aussi bon, des abolitions, puis on revient en arrière, puis on revient. Il y a des distinctions entre la traite, l'esclavage, donc c'est pas aussi simple. Il y a aussi des interdictions dans certaines colonies, pas dans d'autres. Est-ce qu'on interdisait l'esclavage en Afrique? En l'occurrence, non, il n'a pas été interdit, c'est-à-dire qu'on interdisait l'esclavage des Occidentaux qui prenaient les Africains qui les emmenaient au Caraïbes, on n'interdisait pas les Africains, mais les Africains l'esclavage, qui s'est poursuivi. Enfin, et du coup, on voit que ce n'est pas binaire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir en fait des progrès, des étapes de passé dans un truc d'ensemble qui est beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air, qui n'est pas en gros on n'abolit pas, quoi, et qui pourtant fait avancer les choses. Et je pense qu'en l'occurrence, c'est pas en France que la viande sera abolie d'abord. Quand on voit que le foie gras, c'est pas en France qu'il a été aboli d'abord. C'est donc pas en France que ça sera, mais qu'à partir du moment où il y a un pays qui sera perçu comme ayant aboli, parce qu'après tout, vous avez des régions de l'Inde où c'est plus ou moins aboli, d'une certaine manière, dans les quartiers. Quand il y a un premier pays, je sais pas quel, est-ce que ce sera la Suisse, ou un pays d'Asie, j'en sais rien.
En Inde, il y a des quartiers végétaux.
Voilà, les quartiers. Quand il y aura à un moment donné la perception qu'un phénomène comme celui-ci, qui pourrait être une ville, j'en sais rien, un quartier ou un pays qui à un moment donné aboli, qui a aboli le meurtre animal, c'est peut-être par là que ça passerait, j'ai commencé à le penser. C'est-à-dire qu'on applique la loi du code pénal qui dit que le fait sans nécessité de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé est interdit, et que le jour où on applique ce règlement, quoi. On rajoute l'abattage d'un oiseau, d'un mammifère ou d'un poisson pour consommer sa chair n'est pas considéré comme une nécessité si une alimentation saine est disponible en quantité suffisante. Voilà. Mais si on rajoute juste cette alinéa, on a oublié la viande, quoi, de manière claire. Et à partir du moment où il y a un pays qui fait ça, je pense que du coup ça change la donne complètement, quoi. Peut-être que des priorités, ça devrait être de trouver un petit pays genre le Luxembourg, j'en sais rien, ça va être plus facile. Parce que derrière, le monde sera changé, parce que quand ça va se produire, ça va
être
plus
facile. C'est vraiment des gros races, ça va être dur.
C'est
pas Saint-Julien
d'abord. C'est pas l'interdiction, c'est pas l'interdiction de la viande, hein. C'est l'interdiction du meurtre animal. On interdit de tuer un animal sans nécessité.
Sauf pour légitime défense, comme pour les humains.
Voilà.
Mais Antoine, ce que tu n'avais pas dit tout à l'heure avant de les zapper, mais c'est que quand même, l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique repousse sur l'industrie agroalimentaire.
Oui, donc ça ne sera pas la Suisse.
Et là, il y a un gros boulot, quoi, je veux dire. Hein. C'est pas mal avec l'industrie pharmaceutique va lâcher l'agroalimentaire. Quoi. Elles se tiennent toutes les deux main dans la main. Quoi.
On peut peut-être et juste compter sur la Suède et le Danemark.
Pour moi, c'est une mission impossible.
Alors ça, je pense que c'est un autre problème, c'est que les militants eux-mêmes n'y croient pas. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression que très peu de gens croient que c'est possible d'abolir la viande. D'abolir le meurtre animal, quoi.
Il faut savoir que les choses sont sans espoir, mais c'est pour moi qu'il faut décider à les changer.
Les choses sont sans espoir, mais décider à les changer.
Il faut savoir que les choses sont sans espoir, mais cependant, il faut décider à les changer.
Je pense que si t'as pas l'espoir, tu feras, tu n'auras pas des masses de militants derrière toi. Si toi t'y crois pas, t'entraîneras pas une vague derrière toi, quoi. Je veux dire, Beauvais, c'était sans espoir de s'attaquer à la finance internationale et à machin. Et effectivement, il a absolument pas gagné son combat, sauf qu'il a eu des centaines de milliers de personnes derrière lui. Parce qu'il devait l'impression d'y croire, quoi.
Si tu changes pas de manteau, pareil, tu pourras jamais.
C'est l'absurde habitat pour les figures de proue.
C'est pas ce que je veux dire, c'est que ce sera très 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 difficile. Et je pense que c'est l'éthique qui va sauver les choses, mais c'est pas. Ça viendra pas des
institutions. Moi je pense que le fait de pas y croire, il y a un vrai problème dans le discours. C'est-à-dire que moi c'est que très récemment que je me sens à l'aise de dire de la bonne manière que je veux vraiment abolir la viande, quand je discute avec des gens autour de moi, je ne rends pas de grands discours, etc. Voilà, c'est plus que j'ai rencontré récemment, je me suis dit pour la première fois de dire d'une manière vraiment appropriée, c'est-à-dire que j'y croyais et c'est pas compris de la même manière si tu crois, enfin dans le sens que c'est une demande légitime qui a une voie pour y arriver, qu'il y a eu des choses dans le passé de grande ampleur qui sont produites, exemple ce dont on a parlé aujourd'hui. Et qui ont fait quelque chose de relativement similaire, je ne sais pas si c'est tout pareil, mais d'un pas qui paraissait impossible, et que j'en viens de plus en plus à penser que le frein principal aujourd'hui, au-delà de ce qu'on connaît, tu parles des freins économiques, etc., c'est le fait que les militants eux-mêmes n'y croient pas, quoi. Et moi, je rencontre plein de gens qui n'y croient pas et qui sont militants. Alors, des fois, je me dis pourquoi, ou c'était comme moi, peut-être avant, je n'y croyais qu'à moitié. d'être révolté, c'est une chose, de trouver ça moche, oui, mais de vraiment croire que c'est possible d'y arriver. Alors, pas nécessairement dans le temps de sa vie, ça c'est autre chose, ça dépend de l'espérance de Dieu s'accorde, mais que c'est pas que c'est pas un but asymptotique qui n'arrivera jamais, quoi. Et pour moi, c'est ça que je traduis, le fait de dire qu'on applique le code pénal et de dire qu'on précise que voilà, les poissons, les mammifères et les oiseaux sont concernés par cet article, enfin, que l'abattage pour consommer la chair ne relève pas d'une nécessité, voilà, ça concrétise. C'est parce que quelque part, le meurtre animal est déjà aujourd'hui réprimé et dans les esprits. On nous dit est-ce que tu peux tuer un animal pour rien ? Surtout en gros, genre une vache et tout le monde. Mais non, enfin. Tout le monde est déjà d'accord avec cette idée-là. En fait, la bataille des idées, elle est déjà gagnée sur la viande. Tout le monde est d'accord, il ne faut pas tuer un animal inutilement, quoi.
Il y a des gens qui me disent clairement, ça ne vient de pas tuer, quoi.
Même la loi qui le fait.
Et des gens qui mettent dans l'abattoir et qui vont
changer de métier.
Déjà, j'ai envie de leur foutre des coups, quoi.
Mais oui, mais d'accord, mais il y avait des planteurs, il y a encore des planteurs. C'est pas...
ouais. On a vu des abattoirs avec des heures de visite.
Donc juste tout le monde a à faire appliquer la loi, c'est tout, on dit appliquons la loi, tout le monde est d'accord, la loi a été votée, tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas tuer l'animal pour rien, appliquons la loi. On n'en a rien plus que ça, que le principe sur lequel tout le monde est déjà d'accord, presque tout le monde sera appliqué.
Vous pouvez manger, je crois.
C'est bon.